en les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Ainsi, nous nous orientons vers l'éveil et nous animons à notre cœur une motivation de bienveillance universelle. L'étude et la pratique du Dharma aujourd'hui. Le chapitre commence avec un exergue. Gampopa nous dit dans le précieux rosaire de la voix sublime, rien ne resterait. Donc être réceptif, attentif, et dans cette réceptivité attentive, s'imprégner de l'enseignement, l'accueillir en soi, le retenir, être un réceptacle qui le garde présent en soi et présent à l'esprit. La troisième faute serait qu'au moment de recevoir le Dharma, nous soyons en proie à des passions qui nous distrairaient et qui nous posséderaient. Écouter le Dharma avec l'esprit perturbé est comme de manger une nourriture agréable mélangée à du poison. Elle est bonne dans un premier temps, mais plus tard, le poison rend malade. Donc, d'écouter le Dharma libre d'émotions perturbatrices de passion et avec une bonne motivation, une motivation altruiste et bienveillante. L'attitude de respect et de confiance consiste à recevoir le Dharma avec l'esprit joyeux, attentif, joyeux au sens d'ouvert et de disponible, de présent, dans un bien-être attentif. En considérant le lama qui transmet l'enseignement, non pas comme une personne ordinaire, mais comme le Bouddha Sakyamuni lui-même. Donc, d'apprendre à considérer l'enseignant comme le Bouddha. Il en est le porte-parole, il est le porte-parole de son enseignement. Donc, ce n'est pas une personne vulgaire, ordinaire. Lui-même doit avoir reçu l'enseignement, l'avoir étudié, l'avoir pratiqué, et il se doit de l'exprimer conformément au Dharma, conformément dans la parole du Bouddha. Et c'est ainsi qu'il est le porte-parole du Bouddha et qu'il est important de le considérer comme le Bouddha Sakyamuni lui-même. C'est ainsi que l'inspiration de la transmission passe véritablement. La bonne attitude exige aussi que nous considérions ceux qui reçoivent l'enseignement avec nous, non pas dans leur état habituel, mais en reconnaissant en chacun d'eux la nature de Bouddha. C'est-à-dire que nos frères et sœurs d'études et de pratiques ont la nature de Bouddha, ils l'ont de toute façon, mais de reconnaître celle-ci en eux et de les apprécier, de les honorer, de les respecter comme tels, comme Chenrezi ou comme nature de Bouddha, comme détenteur de la nature de Bouddha. Nous considérons aussi que le son de l'enseignement que nous entendons est l'union du son et de la vacuité. L'on entend, mais sans saisir, sans s'accrocher dans une écoute ouverte et disponible, et que ce son de l'enseignement est doté des 60 caractéristiques de la parole du Bouddha, qui est douce, mélodieuse, qui peut être bien entendue par tous. Il y a 60 caractéristiques de la parole du Bouddha. Cette attitude est importante, ces attitudes sont importantes pour nous ouvrir à l'influence spirituelle et pour écarter les émotions perturbatrices. Lorsque nous requérons l'enseignement, il est juste et bon de se considérer comme un malade, malade atteint de la maladie de l'ignorance, avec tout son cortège d'illusions, de considérer le lama qui donne l'enseignement, qui transmet le dharma comme un médecin, et le dharma lui-même comme le remède ou la thérapie à notre maladie. Donc, nous sommes malades, le dharma est la thérapie ou le remède, et le lama est le médecin. Même le Bouddha a été nommé le grand médecin, celui qui guérit de la maladie, de l'ignorance, avec ses illusions et passions. En outre, il s'agit que notre motivation en écoutant et en pratiquant le dharma soit d'arriver à l'éveil pour le bien de tous les vivants. Donc, une motivation bodhicitta, une motivation altruiste, bienveillante, pour le bien de tous, une bienveillance universelle. Quelle que soit l'activité du dharma, ce préliminaire qu'est l'esprit d'éveil, bodhicitta, l'éveil du cœur-esprit, est indispensable. Une petite pause. La section suivante s'intitule Pratiquer dans la vie quotidienne. Donc, comment pratiquer dans la vie quotidienne? La pratique juste du dharma s'accomplit à chaque instant dans n'importe quelle situation, que nous marchions, que nous mangions, travaillions, quoi que nous fassions. Un point très important là. La pratique du dharma n'est pas limité au moment où nous sommes assis sur un coussin ou dans le temple ou dans un lieu particulier. La pratique du dharma est une pratique de chaque instant. Chaque instant, chaque situation, chaque expérience est pratique du dharma, quelle qu'elle soit. Et la pratique du dharma est la façon juste de vivre l'expérience de chaque instant. Non, que nous marchions, mangions, travaillions, quoi que ce soit, toutes les activités de la vie quotidienne sont des situations en lesquelles il est possible d'abandonner ce qui est négatif, de cultiver ce qui est positif et de se consacrer au dharma. De se consacrer au dharma dans cette attention à éviter les attitudes négatives, d'abonder dans les passions, dans la saisie, savoir cultiver les attitudes positives, d'ouverture, de bienveillance, altruiste, cultiver à chaque instant une bonne motivation, bodhicitta. La motivation de bienveillance universelle est dite la pierre philosophale qui transforme toute activité en l'or d'une pratique d'éveil. Donc, à chaque instant, à chaque situation, ce qui est accompli avec bodhicitta pour le bien de tous les vivants et pratique du dharma, ce qui est accompli d'une façon égoïste et passionnelle n'est pas pratique du dharma. À chaque instant. À chaque instant, nous pouvons utiliser notre corps, notre parole et notre esprit pour ainsi pratiquer de façon positive. positif ayant le sens de saint, d'harmonieux. Ayant présent à l'esprit la précieuse existence humaine, l'impermanence, les défauts du samsara et la causalité du karma, les quatre notions fondamentales, nous pouvons nous simplifier la vie, renonçant à des activités extérieures pour nous consacrer profondément à la pratique. Ces quatre notions fondamentales sont la cravache du pratiquant, un moyen de se stimuler, de se recentrer sur l'essentiel, de recentrer sa vie sur ce qui est vraiment important. Méditation sur l'impermanence est une excellente façon, très décapante, de simplifier son agenda en se demandant ce qui est vraiment important et prioritaire dans la perspective de l'impermanence et de la mort. Il est très important pour nous qui avons de multiples activités, qui allons et venons de par le monde, de pouvoir faire une pause, de nous accorder quotidiennement un moment de répit consacré à la pratique spirituelle. Donc d'avoir chaque jour un moment d'assise, un moment de pleine présence, d'avoir dans sa vie des rappels de pleine présence, des rappels du Dharma, des rappels de Bodhicitta, et ainsi d'amener dans notre vie l'ouverture, la bonté et toutes les qualités du Dharma. C'est ainsi que s'accomplit ce qui est bon pour soi, ce qui est bon pour les autres et pour tous. Une petite pause. Pratiquer en relation avec un centre du Dharma. Alors, les centres du Dharma sont des cercles de pratiquants. Et ce fut l'une des grandes œuvres de Vajradhara Kalon Rinpoche que d'avoir inspiré et initié en Occident et de partout de par le monde des centres du Dharma, des lieux d'études, de pratiques, des lieux où des personnes motivées se retrouvent avec pour motivation unique d'expérimenter le Dharma, de l'étudier, de le pratiquer. Pour la plupart des gens, il n'est pas possible de vivre dans un centre du Dharma. Mais vous avez tous des congés et toutes les semaines, il y a un week-end. Si vous utilisez ces périodes de temps libre pour pratiquer plus intensément que vous ne le faites durant la semaine, ce sera excellent. Vous pouvez, à ces moments-là, aller écouter les enseignements dans un centre de Dharma, y pratiquer la méditation, faire retraite, poser vos questions et dissiper vos doutes. C'est la raison d'être d'un tel lieu, d'un centre du Dharma, lieu de pratique, d'expérience, d'étude, où l'on peut se retrouver entre amis, amis du Dharma, frères et sœurs du Sangha, de façon conviviale et ensemble vivre sa motivation, se soutenir, s'entraider. Cette dimension de cercle de pratiquants, de petite société de pratiquants est très utile, très importante pour soutenir et aider la pratique dans la vie quotidienne. Ceux qui résident dans un centre du Dharma, alors, certains centres du Dharma ont des facilités résidentielles, sont dans une situation privilégiée, particulièrement favorable, puisqu'ils sont à proximité du Dharma et d'un lama dont ils peuvent recevoir régulièrement l'enseignement. Dans un centre du Dharma résidentiel, il y a souvent un lama. Donc c'est une source d'inspiration, d'enseignement, une ressource extrêmement importante. La vie dans un centre du Dharma est organisée de telle sorte que toutes les activités soient tournées vers la pratique. Dans cette situation, les agitations du monde et de la vie habituelle sont moindres ou inexistantes. C'est un environnement très favorable à l'étude et à la pratique du Dharma. Il y a méditation le matin, le soir, et toutes les activités se font dans l'esprit du Dharma et au service du Dharma. Et ceux qui sont dans un centre du Dharma, qui le font vivre comme un lieu d'accueil et de transmission, sont au service du Dharma, au service du Sangha. Et il y a là une activité du Dharma et une circonstance aussi pour le pratiquer extrêmement favorable. Petite pause. Pratiquer en retraite. La retraite est une notion très importante. Pour entrer dans l'expérience, on fait des petits moments de retrait ou de retrait quotidien, de l'assise quotidienne chez soi. Retraite et retrait sont des synonymes. Être en retraite, c'est se mettre en retrait des distractions. Donc, un petit moment d'assise, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, c'est un petit moment de retraite. Si toutes les semaines, l'on va dans un centre du Dharma ou dans un cercle de pratiquants, c'est aussi petit moment de retraite, de pratique intense. Mais il est aussi des retraites plus spécifiques où on se met à l'écart de ce qui habituellement nous possède. On s'isole un moment pour entrer dans l'expérience profonde, cultiver, développer celle-ci, lui permettre de mûrir. Être en retraite, c'est pendant un certain temps, quelques jours de vacances par exemple, ou le laps de temps dont on dispose, se mettre à l'écart de toutes les formes de distraction et d'agitation extérieure. Dans cette situation de retrait, isolé des distractions, l'esprit peut se tourner entièrement vers la pratique et s'y consacrer avec toute son énergie, n'ayant pas d'autre activité. D'une façon générale, être ainsi en retraite dans l'isolement et le silence offre les conditions les meilleures pour pratiquer la méditation. C'est un cadre particulièrement utile à l'apprentissage de shamatha vipassana. Un moment de retraite, de calme, d'absence de distraction. Isolé, tranquille, pour pouvoir découvrir l'état de pleine présence, la présence attentive, la présence ouverte, shamatha vipassana, et pour pouvoir entrer dans l'entraînement de façon pleine, complète, sans autre activité distrayante, quelle qu'elle soit. Dans la situation de retraite et celle d'entraînement intensif, même pourrait-on dire, à l'écart de distraction. Rien que la pleine présence, rien que la pratique, l'entraînement, 100%. Une retraite a pour but de favoriser l'absence de distraction. Mais pour la pratique, l'essentiel dépend de soi, de son attitude intérieure. Entrer en retraite sans une motivation juste empêche de profiter véritablement des bienfaits de cette situation. Il ne suffit pas de se mettre à l'écart pour que la pratique se développe profondément. C'est une situation, une circonstance favorable, mais il faut avoir la discipline intérieure, la rigueur, la méthode et la motivation. Une bonne motivation Et c'est de cette motivation que procèdent les différents éléments qui permettent que la retraite se déroule de façon positive. Dans la retraite elle-même, sans énergie ni discipline, rien n'est accompli, pas plus qu'à l'extérieur. Sans motivation juste ni énergie, quand bien même irions-nous dans l'endroit le plus isolé, dans une grotte au sommet d'une montagne, vivre comme un animal sauvage, cela ne développerait que notre orgueil. Ouais, j'ai vécu en ermite pendant 10 ans. Et puis toi? Donc, c'est la discipline intérieure, la motivation, qui font la véritable retraite. Et c'est là un point très très important car cela dépend de nous. Et ce n'est pas les circonstances extérieures, mais c'est l'attitude intérieure et l'attention, vigilance, présence ouverte, l'absence de distraction, cette discipline qui fait la véritable retraite. Avec la motivation et la détermination juste, une retraite est la situation idéale pour pratiquer la contemplation, la méditation et progresser rapidement. Une petite pause. La retraite de 3 ans, Dosum Chosum. Non. La retraite de 3 ans, que l'on nomme Losum Chosum, ce qui signifie 3 années et 3 périodes, techniquement 2 millunaisons, mais disons la retraite de 3 ans, Losum Chosum. Et la retraite dans laquelle se transmet la tradition yogique dans son entièreté. C'est un modèle qui a été mis en valeur et qui a été créé par Jamdhen Trungpa Lhokseye au XIXe siècle dans son lieu d'habitation qui était un centre de retraite, Tsantcha Rinchenjia, au Tibet oriental, à côté de Pepung. C'est là que Vajradhara Kalam Rinpoche fut lui-même pendant de nombreuses années maître de retraite, et d'avoir développé de par le monde des centres de retraite, Losum Chosum, pour la transmission de la pratique yogique complète, la transmission de la voie yogique, a été l'une des grandes œuvres et des grandes bontés de Vajradhara Kalam Rinpoche. Au Tibet, dit-il, il y avait de nombreux ermites qui avaient renoncé à toute activité ordinaire et méditaient dans des grottes, comme le fit Milarepa. Cette façon de faire est merveilleuse, mais avec la dégénérescence, petit à petit, la tradition érémitique a décliné. C'est alors que de grands lamas, comme Jamdhen Trungpa Lhokseye, ont vu l'utilité d'offrir le cadre de pratique de la retraite de 3 ans. C'est leur activité qui est à l'origine de cette tradition. Donc, une façon de continuer dans un centre de retraite la vie yogique, érémitique, essentielle, et de permettre, dans une période relativement courte, de trouver les circonstances optimales à l'éveil, une retraite complète, qui est en même temps le lieu de la transmission. Complète, la transmission yogique dans tous ses aspects. En Occident, le dharma commence à peine à se développer. Il n'y a que quelques années qu'il y a été introduit et sa porte ne fait encore que s'entrouvrir. Observant la situation de l'Occident, j'ai constaté que les Occidentaux sont des gens très occupés, très engagés dans le monde par leur travail, et fort pris par leurs activités quotidiennes. c'est sûr. Il m'a semblé, dit Kalu Dorje Chan, que la pratique dans un centre de retraite serait une bonne méthode pour eux, car elle offre la possibilité pendant 3 ans de se consacrer complètement à la pratique du Dharma et ainsi d'en retirer d'énormes bénéfices. 3 ans, tout à la pratique, sans distraction, ce qui est la meilleure façon de pouvoir entrer véritablement en son expérience, la cultiver, la stabiliser, l'intégrer et par là même d'obtenir le maximum de bénéfices. Ayant moi-même fait cette retraite et en ayant aussi été directeur d'Upen en tibétain, je connais bien les possibilités et pense qu'elles peuvent être très bénéfiques. Aussi ai-je fondé un premier centre pour la retraite de 3 ans en France. Ensuite, de nombreux autres se sont développés au Canada, en Suède, aux États-Unis et d'autres encore en France. Et des centres de retraite Nyingma et Kagyu ont également été fondés par d'autres lamas. Vajradhara Kalu Rinpoche a amené cette tradition de la retraite de 3 ans du Tibet au Bhoutan, en Inde, à Sonada, en différents endroits. Puis ensuite, de par le monde, il a commencé en France et ensuite le modèle a essaimé. Il en a fondé, comme on vient de le dire, en d'autres endroits et d'autres lamas en ont aussi fondé. Nous-mêmes, en tant que disciple dans son inspiration et à sa suite, en avons fondé un ici en Avallon. Et cette année, 2014, va voir la sortie de la 7e retraite, l'Osum Chosum. Celle-ci se déroule depuis maintenant une trentaine d'années, pas encore tout à fait, mais à raison de 4 années. Avec une année de vacances, ça fait 4 fois 7, 28. Donc, cette excellente situation de transmission et de pratique. Au Tibet, beaucoup de personnes se consacraient à la vie monastique, mais très peu étaient ceux qui faisaient des retraites. Ceux qui entreprenaient une retraite de 3 ans le faisaient de leur propre initiative, à partir de leur motivation personnelle. Si l'engagement monastique était une façon de sortir du cycle mondain habituel et de se hisser tant soit peu au-dessus de celui-ci, une retraite était comme une sorte de deuxième échelon, une entrée profonde dans la pratique effective des enseignements. Devenir lama étant tenu en grande estime. Les Occidentaux qui choisissent d'accomplir une telle retraite, l'Osum Chosum de 3 ans, le font davantage encore par leur motivation, car personne ne les a incités. Il n'y a pas un roi, un président ou des parents qui les aient poussés. Ce n'est pas non plus dans une habitude culturelle. Et cela part vraiment de leur aspiration personnelle et d'une excellente motivation intérieure. Au regard de l'impermanence, ce n'est jamais une erreur que de renoncer à quelque chose d'extérieur pour se consacrer pleinement et profondément à la pratique. C'est une façon de dire que, en pensant à l'impermanence, il est important de savoir utiliser la possibilité d'entrer en retraite et de faire ainsi une retraite essentielle lorsque c'est possible, sans atermoiement. Car les possibilités que l'on a à un moment peuvent ne plus se reproduire. Une telle retraite est la meilleure façon de pratiquer le Dharma, intensément pendant 3 ans, sans soucis mondains et sans les distractions habituelles. Cette période offre les conditions les plus favorables pour que toutes les énergies du corps, de la parole et de l'esprit soient consacrées aux pratiques les plus importantes du Vajrayana. Alors, dans le programme de la retraite de 3 ans, il y a toute une progression qui suit aussi toute la transmission yogique du Vajrayana, pratique d'une déité, pratique des six yogas, Niguma, les 5 enseignements d'or, Shangpa, Mahamudra, Dzogchen, etc. Il est important que ceux d'entre vous qui envisagent de faire cette retraite de 3 ans dans l'avenir s'y préparent très bien. Et si vous pouvez la faire, elle donnera un sens extraordinaire à votre vie humaine. Et une telle retraite est un moment de pratique intense dont on peut bénéficier d'autant plus que l'on est bien préparé. Donc, il est important de bien poser les bases en ayant déjà une bonne expérience de la pleine présence, mindfulness, de l'entraînement du cœur et de l'esprit, l'ojong, déjà une expérience de la pratique d'immense bonté, Chenrezig, et une bonne compréhension du Dharma. C'est sur ces bases déjà stables et solides qu'il est possible de faire une excellente retraite de 3 ans. Comme j'ai constaté qu'il était difficile de garder des vœux monastiques en Occident, j'ai demandé aux personnes souhaitant faire la retraite de 3 ans d'observer la chasteté simplement durant le temps de la retraite. Pendant cette période, ils vivent en célibataire et plongent pleinement dans la pratique. Après la retraite, ceux qui le souhaitent peuvent recevoir des engagements monastiques définitifs et les autres reprendre leur vie familiale dans le monde. Célibat pendant la retraite et après, ceux qui le souhaitent peuvent devenir moines ou les autres continuer la voie yogique dans la vie quotidienne. Même si vous ne persévérez pas après la retraite dans un engagement complet dans le Dharma, 3 ans auront quand même été consacrés à déployer toute votre énergie dans la pratique de ce qui est extrêmement positif. Et cela constitue déjà quelque chose d'extraordinaire. La retraite de 3 ans offre l'opportunité de bien connaître le Dharma et les pratiques du Vajrayana. Sur cette base, il est ensuite possible de poursuivre une vie de pratique et éventuellement de longues retraites solitaires. C'est ainsi qu'il est possible d'atteindre l'état de Bouddha en cette vie même. La retraite de 3 ans constitue la circonstance de la transmission complète de la voie yogique, qui est ensuite le support d'une vie de retraite, vie de retraite qui peut être solitaire, qui peut être dans le monde. Et en tout cas, c'est ainsi, en sachant se consacrer intensément et profondément à la pratique essentielle, qu'il est possible d'atteindre la réalisation de son vivant. Un moment de pause. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.